20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Les États-Unis sont touchés au cœur par une vague terroriste sans précédent. Véritable scène de guerre à New York où deux avions de ligne détournés ont été projetés contre les tours du World Trade Center, symbole de la puissance américaine. Les tours qui se sont effondrées peu après. Ces attentats se sont produits à l'heure de l'entrée des bureaux et ont fait, selon le maire, un nombre terrifiant de victimes.
Nous sommes le 11 septembre 2001. Quelques heures plus tôt, à 1700 km de New York, le président Bush visite une école à Sarasota, en Floride. C'est une belle journée qui s'annonce. Il a fait son footing, bien loin de s'imaginer ce qui se trame depuis de longs mois et va toucher dans un instant les États-Unis en plein cœur, laissant une cicatrice indélébile sur l'histoire d'une nation horrifiée. Dans le même temps, 19 djihadistes, en majorité saoudiens, ont déjà franchi sans encombre les contrôles de sécurité des aéroports de Boston, de Washington et de Newark. À 8h46 minutes et 40 secondes, la tour nord du World Trade Center est percutée par un avion de ligne à une vitesse de 700 km/h. 101 personnes sont à son bord. D'autres, venues travailler dans les bureaux au-dessus du 92e étage, sont prises au piège d'un brasier dont les flammes gigantesques lèchent le building et laissent échapper une épaisse fumée noire dans le ciel bleu de Manhattan. Et ce n'est que le début d'une journée d'effroi pour les États-Unis qui aura horrifié le monde entier et changé à jamais le cours de l'histoire. Nous sommes le 11 septembre 2001. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Dominique Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et co-auteur avec Nicole Bacharan du livre 11 septembre, le jour du chaos aux éditions Perrin. Quand je dis que c'est un jour qui a changé le cours de l'histoire, même l'actualité récente avec le départ des troupes américaines d'Afghanistan nous le rappelle.
Oui, 20 ans après, en fait, 20 ans, et on a, quand on regarde ces images, on a toujours ce même sentiment de stupeur.
Ouais.
On a l'impression que c'est irréel, qu'on est en train de regarder un film, et c'est cette impression-là que tous les gens qui ont regardé les premières images et qui ont été diffusées très tôt après le premier crash, ont eu, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que l'on voyait à l'époque était inconcevable, impensable. Comment imaginer que l'on puisse délibérément projeter des avions de ligne civils bourrés de passagers
et de kérosène
sur les plus hautes tours de New York.
Même les services secrets n'avaient pas envisagé ce genre d'attaque.
Alors il y avait des alertes. On était dans une situation d'alerte assez forte sur le plan des États-Unis. Il y avait une alerte qui venait de la CIA, le FBI aussi, des agences de renseignement qui disaient attention, les islamistes ont l'air de vouloir faire des choses vers les États-Unis et vont frapper sans doute le territoire américain.
Mais de là à penser ça.
Exactement. De là à penser qu'on pouvait transformer des avions de ligne en missiles, d'une certaine manière, avec des kamikazes, non, ça, personne n'y avait pensé.
Des kamikazes et évidemment aussi des civils qui pensaient ce jour-là prendre un avion et se déplacer à différents points des États-Unis, mais n'imaginaient évidemment pas ce qui était en train de se tramer. C'était une journée d'effroi, vous l'avez dit, une journée de sidération. Nous-mêmes, en préparant cette émission, on a eu du mal à y croire. Hein. C'est vrai, quand on regarde les photos ou les films de cet événement tragique, c'était aussi une matinée en enfer pendant laquelle personne ne pouvait reprendre son souffle, tant les événements, vous allez vous les rappeler ce soir, se succédaient à la vitesse de l'éclair. Des allures donc de fin du monde, le 11 septembre 2001, on se souvient ce soir dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J. Nous voyageons dans le temps, vous le savez, chaque soir en revisitant des événements qui ont marqué l'actualité. L'un des événements les plus incroyables et les plus effroyables du début du siècle a eu lieu le 11 septembre entre 8h46 heure du premier avion qui s'écrase sur la tour nord des tours jumelles à Manhattan et 9h03 où un deuxième avion percute cette fois-ci la tour sud. Vous êtes notre invité Dominique Simonet. Monet, vous êtes journaliste, écrivain, et vous avez dans un ouvrage retracé cette effroyable journée du 11 septembre aux éditions Perrin. Bon, là, on sait que c'est un attentat et évidemment, on ne se demande pas longtemps qui est derrière tout ça et depuis combien de temps. On savait qu'il y avait des menaces sur les États-Unis.
On savait qu'il y avait des menaces. Les services de renseignement avaient alerté la Maison-Blanche. Et là, tout de suite, très vite, c'est le George Tenet, qui est le directeur de la CIA, qui comprend. Et il dit c'est Ben Laden. Il est en train, il a un petit déjeuner à Washington. Il se lève, il saute de sa chaise comme d'un ressort et il dit c'est Ben Laden. Il a compris. Il a compris ce qui est en train de se passer. Et on le saura après par la suite. Il faudra quand même des semaines et voire des mois pour comprendre la précision de cette opération, mais c'était une opération que les terroristes ont appelée l'opération des avions, qui a été imaginée par un Koweïtien qui s'appelle Khalid Sheikh Mohammed, qui s'est affilié à Al-Qaïda. C'est un fanatique, c'est quelqu'un qui depuis des années déjà fomente des attentats. On lui attribue certainement le premier attentat d'ailleurs au World Trade Center en 1993.
Une bombe qu'on avait retrouvée
dans le sous-sol. Et là, il a proposé cette idée. Il a toujours des idées, des mortelles, morbides. Il a pressé cette idée de, et si on transformait des avions de ligne en avions kamikazes et on projetait sur des cibles stratégiques aux États-Unis. Alors Ben Laden a accepté. Ben Laden vous savez, c'est la riche famille saoudienne. Mmh. C'est le qui a créé Al-Qaïda en 89. C'est le chef terroriste qui lui aussi organise des attentats. Et tous les deux, ils vont organiser cette mission de la mort. Et alors c'est vraiment, c'est une organisation méthodique. Il y a quatre groupes avec cinq personnes. Dans chaque équipe, il y a des gros bras qui ont été, qui sont des gens pas un peu frustres, mais très fanatiques, et qu'on a entraînés pour égorger les pilotes et les hôtesses. Ils sont entraînés sur des moutons. Et il y a des pilotes, eux vont pendant quelques semaines suivre des cours de pilotage, parce que ça aussi c'est très organisé aux États-Unis, dans des écoles de pilotage, avec des visas un peu trafiqués, etc. Et ces quatre groupes vont se retrouver au même moment, le matin du 11 septembre, dans quatre avions différents qui ont été choisis bien précisément, parce que ce sont des avions gros porteurs qui doivent Boston, Los Angeles, ou Washington, San Francisco, donc ils sont chargés de carburant, et les cibles ont été trouvées pour être les plus proches possibles, donc notamment le World Trade Center à New York, à quelques minutes de vol de Boston.
Pour être sûr en fait que l'avion soit plein à craquer.
Plein à craquer, face au maximum de morts. Mmh. Et ils ont pris des sièges en première classe et dans les premiers rangs de la classe affaires pour être le plus près du cockpit. Et on le sait parce qu'il y a des enregistrements absolument terrifiants que j'ai pu écouter, des hôtesses ou de passagers qui racontent en disant qui appellent leur American Airlines par exemple, ou même leur famille à partir des téléphones de bord, et qui disent mais il y a des terroristes, ils ont égorgé une hôtesse, ils ont égorgé le pilote et on est en train de descendre. Enfin, ce sont des enregistrements absolument terrifiants. Et donc cette opération a été minutieusement organisée pour faire le maximum de morts, le maximum de victimes, et sur des cibles les plus symboliques des États-Unis, donc là, le World Trade Center, la Maison Blanche, elle était dans les plans, le Pentagone, et il y avait aussi une idée de viser éventuellement le Capitole.
Alors, ça faisait combien de temps qu'ils étaient sur le sol américain ?
Ils étaient là depuis, ça dépend, ils étaient là depuis plusieurs mois. Il y avait quelqu'un dont le nom est devenu tristement célèbre, qui s'appelle Mohamed Atta, qui était le chef de ces groupes, qui avait organisé ça. Et ils se sont arrangés pour partir tous au même moment d'aéroports différents, mais à la même heure, proche de leur cible. Mais c'était des gens, il faut le dire, qu'on a du mal aussi à concevoir ça. C'est leur but, leur seul but, c'était de tuer le maximum de gens, des hommes, des femmes, des enfants. Donc ça aussi, c'était inconcevable. Une telle inhumanité, une telle... Je veux dire, on pense à tout ce qui est indicible, on pense à Auschwitz, on pense à des... Il y a quelque chose qui relève d'une barbarie qui est inconcevable et qui explique aussi peut-être cette impréparation des États-Unis, parce qu'on ne peut pas préparer ce qu'on juge inconcevable.
Ce qu'on ne pourrait pas imaginer.
Ben voilà.
Évidemment. évidemment. C'est à 9h07 précisément, donc après que 4 minutes après que le deuxième avion a percuté la tour sud, que le président américain George Bush est interrompu par Andy Card. C'est son chef de cabinet, dans la classe à Sarasota et devant les photographes et les caméras, puisque vous l'avez dit, il était en déplacement dans une école en Floride. Il est d'abord resté impassible. Qu'est-ce qui s'est passé juste dans les minutes qui ont suivi? Il a réussi à aller au bout de sa conversation avec l'Instit.
Oui, alors il a
mené à bien sa mission, je dirais.
Il se trouve que le président était devant des caméras. En tout cas, il avait emmené quelques journalistes pour sa tournée en Floride. Et il fait une leçon de lecture aux enfants.
On voit les images de son chef de cabinet qui rentre dans l'école, qui lui parle à l'oreille.
Bien sûr.
Et lui.
Il y a des journalistes qui sont au fond qui filment la scène.
C'est ça.
Et il lui dit l'Amérique est attaquée. L'Amérique est attaquée. Et là, George Bush se dit, parce qu'il l'a raconté après, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? Si je me lève tout de suite, ça, je vais créer la panique. Il faut que j'attende un peu. Donc, il va attendre, je crois, à peu près 7 minutes avant de réagir. On lui reprochera beaucoup. En même temps, on ne peut pas être dans sa tête. On ne sait pas. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein, qu'il aille un petit peu plus tôt prendre des nouvelles. Mais malgré tout, on commence à voir là l'esquisse d'une certaine confusion au sein du gouvernement américain.
Et c'est de cette même école, justement, qu'il va faire sa première déclaration. Écoutez.
Today we've had a national tragedy. Nous avons vécu aujourd'hui une tragédie nationale. Deux avions se sont crashés sur les deux tours du World Trade Center. Nous ne tolérerons pas la terreur sur notre sol. Et maintenant, je voudrais vous demander une minute de silence. Dieu protège les victimes de ces attentats et l'Amérique.
Et vous l'avez entendu, un Bush qui appelle au recueillement, mais qui se transforme alors en chef de guerre. On en parle dans un instant dans Jour J. On est ensemble jusqu'à 21h.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes donc ce soir le 11 septembre 2001, journée d'effroi pour les États-Unis, d'effroi pour le monde entier, une journée aussi, une matinée d'attaque contre les États-Unis qui a changé à jamais le cours de l'histoire. Vous êtes notre invité ce soir, Dominique Simonet. On l'a entendu, on a laissé le président Bush qui effectivement appelait au recueillement, mais qui se transformait en chef de guerre déjà, c'est-à-dire que vous nous l'avez expliqué lors de sa première déclaration officielle qui certes est peut-être arrivée un petit peu tard. On sent qu'il a un ton à la fois solennel de citoyen meurtri et en même temps de président des États-Unis qui prend en main son pays.
Oui, il est le commandant en chef. Hein. Il y a une attaque gravissime au cœur des États-Unis. Donc, effectivement, il doit assumer cette fonction. Mais le paradoxe, c'est qu'il va, il va devoir évacuer lui aussi d'une certaine manière. Parce que quand
il est une cible potentielle.
Il est une cible potentielle. Et non seulement lui, mais tout le gouvernement. Et il y aura bientôt des évacuations de la Maison-Blanche. Il y aura bientôt la mise en service d'un plan qui est tous les pays ont ça. Hein. Il faut préserver les personnalités. Donc, il faut les disperser et les mettre à l'abri. Et là, le seul moyen pour le président, c'est de repartir dans Air Force One
et dans son avion,
l'avion présidentiel, et de décoller. Alors, ils font un décollage carrément vertical pour se mettre à l'abri. Et le paradoxe, c'est qu'au même moment, les autorités d'aviation demandent aux avions en l'air d'atterrir, de se poser.
Et c'est ainsi que Air Force One sera le seul avion en train de survoler le territoire américain. Donc on organise l'évacuation du président Bush, les deux tours sont touchées. Le président Bush monte dans son avion Air Force One transformé en fusée. Ils vont à 14 000 mètres d'altitude, qui n'est pas l'altitude classique pour ce genre d'avion, parce que c'est le plus haut possible évidemment, et qu'on n'imagine pas des avions kamikazes qui cherchent Air Force One dans les airs. Et c'est là qu'il sera, on va dire, en sécurité. Et à son bord, il y a également les journalistes.
Il y a des journalistes, parce que c'est un voyage présidentiel. Et donc, il y a des journalistes qui l'accompagnent. Et les journalistes, là, sont très cadrés, là, je dois dire. On leur dit, surtout, vous ne donnez pas nos coordonnées. De toute façon, il n'y a pas vraiment moyen de communiquer. Et l'avion va, d'une certaine manière, errer un peu dans le ciel pendant toute la journée. Et les journalistes, à chaque fois, auront consigne, même quand il va se poser dans une base militaire, de ne surtout pas communiquer la position du président des États-Unis.
Alors, c'est à 9h03, je vous le disais, que le deuxième avion a percuté la tour sud. À 9h38, hein, seulement 9h38, heure de New York, nouvelle attaque.
Et les drames se succèdent les uns et les uns aux autres dans une série qui est de plus en plus effroyable, puisqu'une troisième explosion vient d'avoir lieu, qui aurait lieu sur le Pentagone, Thomas Legrand.
Oui, il y a quelques instants, une explosion sur le Pentagone et maintenant la Maison Blanche est évacuée. Et visiblement, tous les bâtiments officiels, tous les bâtiments symboliques des États-Unis sont évacués.
Bon, là, Dominique Simonet, on se demande jusqu'où ça va aller.
Oui, imaginez ce qui se passe dans la tête du vice-président Dick Cheney à l'époque qui va aller dans le bunker de la Maison Blanche. Il y a deux tours en feu à New York, deux avions civils qui ont été transformés en missiles, et maintenant le Pentagone, c'est-à-dire le centre stratégique militaire. Là, effectivement, il commence à avoir une vraie panique, et on le voit dans les images, et on le voit aussi les présentateurs à la télévision commencent à faire des hypothèses jusqu'où ça va aller, et les autres pays aussi d'ailleurs en France.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. On a vraiment le sentiment, même nous à distance, on parle quand même d'un pays outre-Atlantique, on a le sentiment effectivement qu'on peut être touché, hein. C'est-à-dire que c'est une panique mondiale.
Oui, absolument. D'ailleurs, le Premier ministre français va aussi prendre des mesures. Il y a cette conscience un peu encore diffuse que l'Amérique est attaquée, mais les démocraties aussi sont attaquées. Et quand on sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire du fanatisme islamique, que ce sont des gens qui sont déterminés à tuer le maximum de gens et qui nourrissent une haine, une véritable haine de tout ce qui est occidental, de toutes les valeurs occidentales, de la liberté, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, on se rend compte que ça ne concerne pas que les Américains.
Évidemment.
Ça nous concerne aussi, les Français.
Et toutes les démocraties du monde. La Maison Blanche, on l'a entendu, tous les bâtiments stratégiques sont évacués, les politiques, les autres officiels sont mis à l'abri, on demande aux dames d'enlever leurs chaussures et de courir. C'est comme ça que ça se passe effectivement au sein des bâtiments officiels. Et depuis Air Force One, vous en parliez il y a un instant, Bush aurait appelé Dick Cheney, son vice-président, réfugié dans le bunker sous la Maison Blanche, et lui aurait dit, avec son accent texan, on va les avoir, ces bâtards.
Oui, alors c'est aux États-Unis, ça se passe très vite quand c'est comme ça. Il y a une agence qui s'appelle le Secret Service. Ils sont plus d'un millier d'agents dédiés à la protection des personnalités, donc tout le gouvernement, mais aussi les principaux sénateurs, les membres du Congrès, la Cour suprême. Et là a été le plan de continuité du gouvernement a été mis en œuvre, c'est-à-dire que tout le monde est dispersé dans des bases secrètes qui se trouvent pas loin de Washington, une espèce de petite ville souterraine. Enfin,
mais tout le monde sait où il doit aller, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous rompus.
Oui, parce que le plan est assez précis. Dans ces... Bon, il y a aussi de la confusion. Laura Bush, par exemple, est au Capitole en train de. Qui s'apprête à donner une conférence. Il y a une certaine confusion. Mais malgré tout, ça se passe comme ça. Et Dick Cheney, par exemple, qui est dans la Maison Blanche, dans son bureau, voit arriver deux agents de garde du corps qui le soulèvent, littéralement le soulèvent. Il a ses pieds ne posent plus sur le sol et qu'il l'emmène dans le bunker souterrain. Et là, il va discuter avec le président, il va pouvoir établir une communication directe avec le président qui est lui dans son avion. Et il y a une décision extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on donne l'ordre de tirer sur ces avions? S'il y a d'autres avions, puisqu'il y en a maintenant trois, est-ce qu'on donne l'ordre de tirer? Vous imaginez ce que ça représente, tirer sur un avion civil dont on ne sait pas s'il est pacifique ou menaçant.
Alors il faut préciser qu'à ce moment-là, l'ordre avait été donné à tous les avions de se poser pour qu'il n'y ait plus personne en fait finalement dans les airs au-dessus des États-Unis. Mais il est des avions qui ne répondent pas à l'appel. En tout cas, celui qui s'est crashé sur le Pentagone avait disparu des radars, mais il n'est pas le seul. On va se retrouver dans un instant. On s'est arrêté à 9h38 avec cette attaque au Pentagone le 11 septembre 2001 au matin. À 9h59, le monde bascule.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous ce soir dans Jour J jusqu'à 21h. Retour sur le 11 septembre 2001, date inoubliable. 11 septembre dont on commémore l'anniversaire, le funeste anniversaire, les 20 ans ce week-end. On est avec vous, Dominique Simonet, jusqu'à 21h. On vient de quitter les États-Unis. Il était 9h38. Attaque du Pentagone, 9h38. 20 minutes plus tard, à 9h59, heure de New York, c'est la tour sud, la deuxième touchée, qui s'effondre. Alors là.
Là, c'était pas possible. C'était pas prévu parmi tous les plans. Ces tours ne devaient pas s'effondrer, normalement. Elles étaient prévues pour résister à des incendies importants qui devaient être circonscrits. Mais là, c'est la stupeur absolue. Et pour ceux qui regardaient la télévision, ils étaient des millions dans le monde entier à ce moment-là. Tout le monde s'en souvient, c'est-à-dire de voir cette image hallucinante, de voir le plus haut gratte-ciel de New York, l'un des deux, s'effacer dans un nuage de cendres, un nuage de mort, et disparaître totalement. Et là, on passe encore à une dimension
d'horreur supérieure,
d'horreur et d'incompréhension, parce qu'on se trouve... c'est un film catastrophe, mais à la différence que c'est pas un film, et donc et qu'il y a des gens, des vrais gens, quoi. Et c'est vraiment, je pense que ça a marqué ces images-là ont marqué le monde entier. Vous savez, on dit toujours où étais-tu quand dans les vieilles générations quand Armstrong a marché sur la Lune. Là, maintenant, on dit où étais-tu quand tu as appris le 11 septembre.
Et on sait tous où on était précisément.
Voilà, on sait tous, et ça veut dire que ça nous a marqué. Et cette image, l'image de la tour sud qui s'effondre est absolument atroce. Au sol, dans le sud de Manhattan, il y a une espèce de boules de cendres, de mélangées, de débris d'acier, de papier, de tout ce qu'on veut, qui commence à envahir les rues, à recouvrir le sud de New York d'une espèce de nuit grise. Et donc la panique s'installe dans les rues. Il y a encore une deuxième tour.
Qui tient debout, mais dont on se dit que potentiellement elle peut s'écrouler, elle aussi. Et puis, je pense à ça aussi, parce qu'on est en train de dérouler, pardon, mais les événements de la matinée, il est évident que depuis l'attaque de la première tour, on a les secours qui essayent, à un moment donné, au pied des tours jumelles, de sauver un maximum de personnes. Mais là, on est dans une confusion, on est dans une panique générale. Il y a déjà des victimes par centaines.
Oui, alors en plus, il y a un contexte de communication qui est extrêmement difficile, parce que le 911, le 911, le numéro d'appel des secours à New York qui concentre à la fois la police, les pompiers, etc., est évidemment totalement saturé. Les téléphones ne passent plus. La communication entre les pompiers et la police ne se fait pas sur la même longueur d'onde. Et même les pompiers qui montent chargés avec 23 kilos d'équipement et qui montent les escaliers marche par marche, continuent à monter parce qu'ils ont entendu dans la tour nord, ceux qui montent ont entendu comme un tremblement de terre, mais certains ne réalisent pas, et comment le réaliser, que la tour voisine vient de s'écrouler. Donc ils montent avec, et la plupart d'entre eux ne reviendront plus. Ne reviendront plus, et en montant, ils croisent des colonnes de gens, soit des victimes déjà très blessées ou brûlées, ou des gens qui essayent de descendre le plus vite possible. Mais c'est très long de descendre des dizaines d'étages. Donc là, on a cette tragédie des secours. Il y aura beaucoup de pompiers parmi les victimes qui montent à leur mort d'une certaine manière. Et c'est assez terrible de constater que à ce moment-là, il y a peut-être des survivants qui vont croiser des gens qui vont sauver d'autres, mais qui ne reviendront pas. Oui.
On est à 9h59, on n'a même pas le temps de respirer. À 10h03, toujours heure des États-Unis, c'est-à-dire 4 minutes après l'effondrement de la tour. On était tous dans un état de sidération. 4 minutes après, un avion qui avait disparu des radars, United Airlines 93, on n'avait pas de nouvelles, semble se diriger tout droit sur la Maison Blanche, mais une mutinerie éclate à bord et il s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. 4 minutes après la chute de la tour.
Oui, ça c'est le quatrième avion. Le quatrième avion qui était en direction de Washington. Ouais. Les passagers ont réagi d'une manière absolument exceptionnelle. Je crois qu'il faut leur rendre hommage encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils ont bénéficié d'une certaine manière des crashs précédents, parce qu'il y a eu quand même des communications entre les passagers et soit leur famille, soit les autorités. Et on a les enregistrements encore. On peut les écouter. Je les ai entendus. Et ils comprennent que ce n'est pas un détournement. détournement classique avec prise d'otage. Ils comprennent qu'ils sont de toute façon qu'ils sont voués à la mort. Donc il y a un certain nombre d'entre eux qui disent, bah, de toute façon, on n'a plus rien à perdre, il faut y aller. Donc ils essayent de prendre n'importe quoi, quelque chose qui coupe. Une hôtesse fait bouillir de l'eau pour s'en faire une arme. Et ils essayent de neutraliser les terroristes qui sont enfermés dans le cockpit. Donc ils arrivent d'une certaine manière à perturber le pilotage. Les terroristes se rendent compte qu'ils ne pourront pas mener l'avion là où ils veulent et ils le mettent en piqué. On est au-dessus de la Pennsylvanie à ce moment-là. Ils le mettent en piqué en criant Allahu Akbar et donc l'avion se crache dans un champ de Pennsylvanie. C'est le quatrième avion. On pensera pendant longtemps qu'il y a d'autres avions, parce que certes, beaucoup ont disparu des radars. Imaginez la confusion, il y avait presque 5000 avions en l'air à ce moment-là au-dessus du territoire américain. Et il y aura beaucoup d'alertes, mais en fait, ce sera le dernier avion, le quatrième groupe. Ce sera la fin de l'attaque. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas encore.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Vous l'avez compris, hein, jour J est consacré ce soir à toute une matinée inoubliable pour nous tous, inoubliable aux États-Unis, le 11 septembre 2001. Air Force One, qu'on a laissé il y a un instant, Dominique Simonet, vous êtes notre invité, est toujours en vol avec le président Bush à son bord. Il faudra préciser que ce sera le seul avion dans le ciel des États-Unis pendant 100 minutes, puisque tous les autres avions auront été sommés de se poser.
Sauf les avions militaires.
Évidemment, et on aura donc assisté à 10h03 au crash du dernier avion dans un champ de Pennsylvanie après une mutinerie des passagers à bord. 10h28, hein, 10h28, donc 25 minutes plus tard, aux États-Unis, la tour Nord s'effondre à son tour. Alors là, on peut dire que Manhattan se recouvre de deuil, de poussière et que cette tour qui s'écroule, c'est tout un monde, hein, finalement, qui s'effondre.
Tout le nuage envahit maintenant le sud de Manhattan. Beaucoup des milliers de gens tentent de fuir le sud de Manhattan. On a ces images de gens courant sur le pont de Brooklyn pour essayer d'échapper. Oui, effectivement, c'est une nuit qui est en train de s'installer comme ça dans un nuage de mort.
Et c'est sur les ruines de ce Manhattan en deuil, 4 jours plus tard, que le président Bush promettra des représailles. Nous sommes le 15 septembre 2001.
Je vous ai entendu, le pays entier vous a entendu, et très bientôt, ceux qui ont détruit ces immeubles entendront parler de nous.
On entend ce USA, USA, USA. Alors là, tout le monde se concentre sur la mère patrie et le président Bush devient chef de guerre. C'est-à-dire que là, oui, ça y est, il promet des représailles.
On le revoit avec cette image où il est juste sur des décombres avec un porte-voix, effectivement. C'est l'Amérique, c'est New York aussi. C'est New York, ouais. Ça veut dire que New York, cette idée que, eh ben, on se relèvera. On se relèvera, on reconstruira. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle tour actuellement. Il y a un mémorial, il y a la trace des deux tours jumelles qui sont transformées en lieu de mémoire avec le nom de toutes les victimes. Il y a même cette nouvelle tour à 1776 pieds, c'est-à-dire l'année de la déclaration d'indépendance, donc tout est dans le symbole. Et ça veut dire que oui, on se laissera pas, ils gagneront pas. Voilà, c'est ça que George Bush essaye de dire, et que tous les Américains et tous les démocrates avec lui, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui relève de la, je dirais, de la fin d'une illusion américaine quand on voit ça. C'est-à-dire que les Américains se croyaient à l'abri entre leurs deux océans et ils se rendent compte qu'à ce moment-là, non, il y a une vulnérabilité qui reste entière et que toutes l'arsenal technologique considérable de sécurité a a échoué, il n'a pas su faire face à des hommes déterminés à mourir avec armés de simples cutters.
Mmh. Et... Parce qu'il faut préciser aussi qu'à l'époque, on montait dans un avion plus facilement qu'aujourd'hui.
Bien sûr, mmh. Il y avait quand même des contrôles.
Hein, mais oui, bon, il y aura, pas aussi drastique qu'aujourd'hui.
Les commissions d'enquête relèveront un certain nombre de lacunes dans les contrôles. Simplement, des cutters, ça passait facilement. Et donc, face à des gens simplement déterminés, c'est une nouvelle forme d'ennemi, c'est ça aussi qu'on se rend compte à cette époque-là. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de front, il n'y a pas de bataille. Il n'y a même rien à négocier. Il n'y a rien à négocier, c'est les gens qui veulent tuer. Et donc, là, cette révélation de la force, de la détermination du fanatisme islamiste, là, à ce moment-là, le monde entier le comprend et le voit. Et il y aura effectivement beaucoup de conséquences. D'abord parce que les libertés vont être un peu restreintes. Et puis, évidemment, ça va engager après l'intervention de l'OTAN via de l'ONU et donc en première ligne, évidemment, des Américains en Afghanistan il y a 20 ans, et on voit aujourd'hui que 20 ans après, les Américains partent d'Afghanistan pratiquement pour l'anniversaire du 11 septembre, et qu'on craint encore aujourd'hui peut-être un renouveau de ce noyau, de ce nid islamiste là-bas.
Qu'est-ce qu'on peut se dire 20 ans après, au-delà effectivement peut-être d'une histoire non achevée avec l'Afghanistan, quelles sont les conséquences, quel est le terrible héritage finalement de ce 11 septembre 2021?
Le terrible héritage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que ça tient en une phrase, c'est que les démocraties sont vulnérables. Elles sont vraiment vulnérables, et c'est vrai qu'on parle des intérêts. Là, on a entendu Joe Biden dire qu'il faut défendre les intérêts américains. Donc l'intérêt américain, c'est de ne plus rester en Afghanistan. Mais il y a aussi des valeurs. On a nos valeurs à nous. On parlait de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la liberté de s'exprimer, la liberté de penser, la liberté de s'aimer. Enfin, la liberté, d'une certaine manière. Et ça, ce sont nos valeurs. Et je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre défendre ses intérêts et défendre nos valeurs. Si on défend nos valeurs, on défend aussi nos intérêts. Et donc, il faut avoir cette conscience-là que la démocratie, c'est fragile et ça peut disparaître comme ça. C'est pas la nation américaine, c'est deux siècles et demi. C'est la Révolution française, c'est pas si éloigné que nous que ça, pardon. Et donc il y a cette volonté. Je pense qu'il faut que chacun ait cette conscience. Et on le voit bien. On a vu les attentats ont continué. On a vu en France, on a vu Charlie, on a vu le Bataclan, on a vu Nice, on a vu tout ça. Et donc, il y a toujours cette menace. Je crois qu'il faut qu'il y ait une éducation civique des jeunes Français, des jeunes Américains, des jeunes qui vivent dans la démocratie, pour leur dire « attention, c'est pas gagné ». C'est pas gagné. Il faut vraiment que vous ayez conscience qu'on doit les défendre, ces valeurs. Et pour les défendre, il faut les connaître et essayer au mieux possible de les diffuser, de les transmettre.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Dominique Simonet. Je rappelle votre livre avec Nicole Bacharan, 11 septembre, le jour du chaos. Et puis je rappelle également la sortie d'un nouveau livre. Vous viendrez, j'espère, nous en parler, ou vous revenez sur des dates historiques des États-Unis, les grands jours qui ont changé l'Amérique. Ces deux ouvrages, c'est aux éditions Perrin. Et puis notez qu'à l'occasion des 20 ans des attentats du 11 septembre, RTL se mobilise samedi avec des reportages et des témoignages exceptionnels d'acteurs et de témoins de ce drame historique. Et à noter d'ailleurs qu'Anaïs Bouton recevra Frédéric Becbédé dans le journal Inattendu. Ce sera à 12h30 donc. Il reviendra à son tour sur ces attentats à travers le livre qu'il avait publié à cette occasion, Windows on the World. Merci beaucoup Dominique Simonet.
Merci à vous.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J.